Et bonjour, voilà une nouvelle émission des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur l'actualité nationale et internationale, en compagnie d'Habib, que je salue, que je remercie. Et puis, je remercie également Yamine, qui est à la technique.
Bonjour Bernard.
Bonjour Yamine, bonjour, merci d'être avec nous. Je salue aussi Sidi qui apparaît dans les coulisses, ouais. toujours là. Voilà, et Sidi que je retrouverai demain soir, puisque demain soir, vous savez, on a un direct comme tous les deuxièmes mercredis du mois. Ouais. Et tant que j'y suis, donc j'annonce l'émission de demain soir, ce sera une interview, j'allais dire à caractère exceptionnel, puisque vous savez tous, puisqu'on en a commémorer les événements. Donc, le vieux quartier de Marseille a été dynamité par les Allemands avec la complicité évidente et active du régime de Pétain, c'est tout à fait clair, et qu'à l'occasion de ce dynamitage, il y a eu une énorme rafle qui a duré 4 jours, qui était destinée à rafler évidemment tous les militants de gauche communiste et tout, et surtout une rafle de juifs qui habitaient sur Marseille. Et il faut savoir que, en gros, 800 personnes, 800 juifs ont été raflés, ont été donc envoyés par des trains dans des camps français à Drancy, et puis de là, ils sont partis vers les camps d'extermination, dont la très grande majorité n'est pas revenue. Donc ça fait partie de l'histoire marseillaise. La rafle de Marseille, donc celle qui a eu lieu entre le 20 et le 24 janvier 1943, a été la seconde en importance après la rafle du Veldiv à Paris, qui est plus connue, hein, qui était d'une autre échelle, c'est vrai, mais ensuite il y a eu celle de Marseille. Bon. Et en fait, il existe à Marseille, et nous la connaissons, une personne qui a survécu, qui a échappé, alors c'est aussi des miracles dans l'existence comme ça, qui a survécu à la rafle de Marseille, avec sa famille juive, donc, et qu'on connaît parce qu'elle a ensuite fait une carrière. Elle est restée à Marseille pour l'essentiel de son temps. Elle a fait une carrière à la fois de sociologue, elle a fait une carrière à la fois de militante politique au sein du Parti communiste. Elle a même été dans les organes dirigeants du Parti communiste français. Et aujourd'hui, elle anime un blog qui s'appelle Histoire et Société. Et son nom, c'est Daniel Blétrac. Et j'ai demandé à Daniel Blétrac de venir raconter aux auditeurs comment elle a été, elle, petite fille. Elle avait 5 ans. Victime, elle risquait d'être victime, elle et ses parents, c'est-à-dire au lieu de finir en camp de déportation et d'extermination, elle a survécu, elle a fait toute la carrière que je viens de décrire très très brièvement, et elle va, pour les auditeurs, et je crois que c'est la première fois qu'elle le fait, elle va raconter ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce que c'est la vie d'une petite fille juive qui vit dans une famille juive ordinaire, disons banale, de voir arriver l'antisémitisme et le nazisme face à soi et dire ben, « ces gens-là, ils ne me connaissent pas, mais ils veulent ma mort parce que je suis juive ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intériorise parce que c'est ça le nazisme et le fascisme. C'est-à-dire des gens qui disent telle catégorie de population ou telle race ou telle ne mérite pas de vivre. Et donc nous, on décide que tous ceux qui font partie de cette race-là, de ce peuple et tout, ils doivent mourir. Et si on les a en face de nous, on les tue. Et c'est ça qu'il faut que nous ayons en conscience parce que c'est des raisonnements qui existent encore dans la tête d'un certain nombre de gens. Et donc, pour une personne qui a vécu comme ça, qui a survécu au fait de « on vous voit dans la rue, vous avez une étoile jaune et vous devez mourir », il faut qu'on intègre ça parce que c'est des idées très mauvaises qui ont encore cours et c'est dommage qu'elles aient encore cours. D'où l'intérêt du témoignage de Daniel Blétrac demain soir. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter. Voilà. Et puis, on va vous dire quelques mots quand même de la manif contre les retraites qui est peut-être en train de s'achever, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. On a quitté, Habib et moi, on a quitté la manifestation. C'est une manifestation très, très nombreuse, plus diverse dans ses compositions. Enfin, gros contingents syndicaux, à l'évidence. Et puis, assez diverse dans sa composition sociale, différents groupes politiques, sociaux, etc. C'était très intéressant à suivre. Et on peut imaginer, vu l'ampleur qu'elle a à Marseille, que l'ampleur nationale sera au rendez-vous. Il reste, pour ne plus parler de la question des retraites, que le débat au Sénat va s'achever. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il était évident, de toute façon, d'abord, le vote du Sénat ne pèse pas in fine, puisque c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot dans la Constitution française. Et puis, les amendements ne sont pas passés. Le débat sera bâclé. Bon, donc, de toute façon, le débat parlementaire sur cette loi a été organisé de telle façon qu'il ne sert à rien. C'est bien ça l'important. Et on reste tout à fait sur cette analyse. Et pendant ce temps-là, puisque je reste et que je démarre sur l'actualité française, le président de la République fait comme si, et je reviens exactement sur ce que je disais la semaine dernière, fait comme si c'était une question secondaire. De Gaulle aurait dit, mais j'aurais tort de comparer Macron à De Gaulle, c'est de l'intendance. L'intendance suit. J'ai confié à Mme Borne le soin de faire passer cette loi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, c'est son boulot. Hein. Moi, je m'occupe des grandes affaires. Alors, c'est lui qui met le qualificatif grande, je mets les guillemets, d'énormes guillemets avant. Les grandes affaires, c'est quoi? La grande affaire de M. Macron, il faut bien que nous en soyons tous conscients, c'est la guerre. C'est la guerre, au moins dans sa tête. C'est-à-dire qu'il se considère comme le chef d'État d'une grande puissance militaire et que je pense qu'il fait une erreur d'analyse là-dessus. Mais dans sa tête, il est clair qu'il est un grand chef de guerre. Alors il l'a manifesté de deux façons dans les jours qui viennent de s'écouler. La première façon de se manifester, ça a été l'engagement intense de la France dans les grandes manœuvres Orion, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont touché donc principalement le sud de la France et l'Occitanie, le port de Sète en particulier, mais pratiquement pas le port de Marseille, et qui ont consisté à dire et à faire croire, à faire entendre à la population française que l'armée française et les armées amies, je veux parler de l'armée italienne, de l'armée espagnole, etc., qui ont participé à, ces manœuvres Orion, la France est en capacité, ou elle rêve, ou elle fait comme si elle était en capacité de mener un conflit de ce qu'il appelle de haute intensité contre une grande puissance. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que M. Macron est en train de dire, bon, l'histoire en Afrique, le Sahel, l'opération Barkhane, c'est du détail, c'est des broutilles, hein, c'est pas à mon niveau. Moi qui suis un espèce de Napoléon Bonaparte en chambre, je précise, hein, moi je vois plus grand. Je vois la France dans une guerre de grande intensité, avec tout ce qu'il faut d'électronique, de drones, de surveillance, etc. Là, je suis en pleine possession de mes rêves, pas de mes moyens, en pleine possession de mes rêves. Je vois grand, je suis un des maîtres du monde. Alors ça, c'est dans sa tête que ça se passe. La réalité, si jamais il y a une vraie guerre, elle serait probablement pas aussi brillante que dans son imagination, décidément beaucoup trop fertile. Donc c'était les manœuvres Orion. Et je voulais m'arrêter, parce que je m'abuse, mais Orion, vous savez qu'il y a deux façons de l'écrire en français. Vous pouvez l'écrire O-R-I-O-N, c'est le nom d'une constellation fameuse, une des plus belles du ciel boréal, elle est connue. Et puis, c'est le nom, alors c'est le nom qui a été donné à cette constellation est le nom d'un héros antique, donc d'un mythe antique, qui est un chasseur, le meilleur chasseur de l'Antiquité, qui a été repris. Alors, c'est chez Homère, chez Horace, etc. C'est un personnage de l'Antiquité qui est connu. Et puis, Orion, ça s'écrit avec un H. Alors, ça, vous n'avez pas l'habitude de le voir. Ben, H-O-R-I-O-N. Ça veut dire coup, tabassement, brutalité, etc. Alors là, on s'est dit, ben, les manœuvres Orion, c'était à la fois fêter le grand chasseur, donc le grand chef de guerre, et puis à la fois le fait de dire, je manifeste parce que je fais des manœuvres, parce que je suis capable de donner moi des grands coups, je suis un frappeur. Bon, c'est ça, c'est assez rigolo. Et je me suis mis à penser, je vous livre mes réflexions, parce qu'il faut rester dans le cocasse et dans le pas sérieux, parce que Macron, ce n'est pas un président sérieux, c'est une farce. C'est une farce qui nous coûtera cher, mais c'est une farce. Et donc, j'ai pensé à un titre de film que vous avez peut-être vu à son temps, qui était « La souris qui rugissait ». La souris qui rugissait, c'est exactement ça. Alors, c'est l'histoire d'une petite principauté qu'on peut situer quelque part dans les Alpes en Suisse, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui décide donc d'attaquer les États-Unis, hein, et qui envoie une troupe avec des arcs et des flèches, hein, et des arbalètes même, bon, évidemment, qui n'arrive à rien, mais qui arrive par tout à fait par hasard, un miracle, à s'emparer d'une bombe atomique. Et donc, ils s'emparent de cette bombe atomique, ils partent avec leur bombe atomique, et à partir de ce moment-là, on les respecte. C'est ça le sens de ce film, La souris qui rugissait. Parce que les arbalétriers qui n'ont pas fait de miracle, mais à part voler au passage cette bombe atomique, sont bien à l'image de ce qu'est l'armée de ce petit pays. Mais le film dit, dès l'instant où vous avez ça, vous vous croyez le maître du monde. Et c'est exactement ce qu'il y a dans la tête d'un certain Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que c'est très dangereux l'arme atomique quand on s'en sert. Et donc lui, il est tout enflé, disons, tout gonflé de cette idée qu'il a l'arme atomique. Alors, il aurait le droit de s'en servir que pour défendre les intérêts de la France, pas les siens, mais il ne faudrait pas qu'il rêve, et il rêve trop, hein, il rêve beaucoup trop, et on va voir qu'en Afrique, maintenant, on ne le considère plus du tout comme un personnage sérieux. Voilà. Puisque dans le même temps, oui, donc, il faisait les manœuvres Orion avec tout le lustre qu'il pouvait leur donner, il est allé faire une tournée en Afrique centrale. Et là, je m'arrête dessus, ben, c'est intéressant. Alors, l'Afrique centrale, c'est autour de l'Équateur, en gros, et donc, il a fait la visite de 4 pays. Je les donne dans l'ordre, je ne sais pas si c'est dans l'ordre exact où il les a fait, mais enfin, disons, le Gabon, le Congo dit Brazza, hein, ensuite le Congo, la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa, et ensuite il est allé en Angola, tout de suite au sud, donc capitale Luanda. Bon. Tout ça s'est bouclé alors, au rythme macronien habituel, en 3 jours à peu près. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a osé, alors je raconte quand même, ça mérite, il a osé faire 2 escales donc au Gabon et en République du Congo, Brazza, en ne faisant pas état du fait que là, il a affaire à 2 dictatures qui sont armées, soutenues, tenues à bout de bras par la République française et la France-Afrique. Je veux parler du Gabon avec à sa tête donc le fils de Omar Bongo, Ali Bongo, et je veux parler du Congo-Brazza avec à sa tête Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de 2 dictatures avérées, de 2 régimes totalement corrompus et de 2 régimes totalement entre les mains de la France-Afrique, qui existe encore, bien que Macron dise le contraire. Mais ça, tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, c'est le moins qu'on puisse. Et puis, il est allé ensuite en République démocratique du Congo. Alors là, la France n'est pas chez elle, puisque c'est une ancienne colonie belge, où la France n'a pas beaucoup de poids, mais il est allé à un endroit qui est important, puisque c'est un endroit où il y a une des populations africaines les plus nombreuses. Hein, la RDC, c'est au moins 100 millions d'habitants, peut-être 110, etc. Et c'est surtout une énorme mine de tout. Il y a toutes les ressources naturelles imaginables de la Terre, à part le pétrole qu'ils n'ont pas en grosse quantité. Pour le reste, ils ont tout. Et vous savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler à cette antenne, qu'il y a en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo les gisements considérables des minerais donc, qui servent à alimenter les puces pour tous les portables, les ordinateurs du monde. Et vous savez qu'à cet endroit-là, il y a une sorte de guérilla sauvage, qu'on appelle le M23, qui en fait tient le haut du pavé et qui permet donc d'exploiter ces mines dont tout le monde se sert, le monde entier, toutes les grandes boîtes de télécommunications, etc., d'ordinateurs, achètent ces produits donc issus du cobalt et du tantal, donc on appelle le coltan, qui est un mélange des deux, pour fabriquer les puces qui sont dans tous nos appareils. Nous avons tous quelque part, alors je vais être cru dans l'expression, nous avons tous quelque part du sang de jeunes Congolais dans nos poches. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'effectivement, l'exploitation de ces mines donc dans la partie est du Congo, dans la région qu'on appelle le Kivu, se fait dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire avec des jeunes garçons qui sont les pieds dans la boue, la pioche à la main, avec des gens derrière qui leur donnent des coups s'ils ne travaillent pas assez fort, etc., et pour lesquels la vie humaine ne compte pas beaucoup. Bon, c'est ça la réalité. Et après, ces minerais extrêmement précieux pour la consommation internationale s'en vont dans un endroit bien, ou dans 2 pays, mais principalement 2 qui sont l'un le Rwanda, l'autre l'Ouganda. Et de là, ils sont, j'allais dire, blanchis. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir quand on arrive, quand vous êtes, imaginez, mettez-vous dans la peau de Ericsson ou de Samsung, quelque chose comme ça, vous arrivez à Kigali. Et là, vous dites, ah ben, je voudrais acheter du coltan, on va vous trouver un négociant qui dira, ben voilà, j'en ai tant, c'est tel prix, etc., au kilo, à la tonne. Et puis, il ne voudra pas vous expliquer, vous ne voudrez pas. Je me mets dans la peau toujours de Samsung ou d'Ericsson. Vous ne voulez pas savoir d'où ça vient, vous savez très bien d'où ça vient, vous savez très bien dans quelles conditions ce minerai a été extrait de la terre congolaise, mais vous ne voulez pas le savoir, surtout pas le savoir. Ces pauvres mineurs qui ont 14, 15 ans et tout, qui meurent à la tâche, je ne veux pas le savoir. Moi, je suis Samsung, hein, j'ai une image de marque, etc. Bon. Et donc, à ce moment-là, ça part sur le marché international et on a oublié le pauvre mineur congolais qui était en train de crever à la tâche pour sortir ce minerai. C'est ça la règle. Et pour que ces jeunes mineurs congolais et les gens qui les exploitent soient sous un régime de terreur, il faut qu'il y ait autour des guérillas, des gens qui les encadrent, qui ont les armes à la main, qui vont aller recruter des nouveaux, tuer ceux qui s'enfuient, etc. Voilà. Il y a une espèce de police, de fait, qui se fait autour de ces gisements, qui est alimentée par le pillage de ces ressources congolaises. Donc ça, la visite de M. Macron avait du sens, en sens que le Congo intéresse beaucoup tout le grand capitalisme international. Aucun pays international n'a imaginé de s'en prendre à ceux qui profitent, donc ceux qui remettent sur le marché mondial les produits issus du sol congolais, en particulier le Rwanda. Alors au Rwanda, il faut bien se souvenir que la France a quand même les mains un peu sales. Je rappelle la participation au génocide des Hutus contre les Tutsis. Bon, la France a une responsabilité historique considérable, un génocide qui a fait 1 million de morts en quelques semaines. C'est bien ça dont il s'agit. Et la surprise, c'est que la France macronienne, et même celle de la France d'avant, de Hollande et tout, trouve que le président du Rwanda, M. Kagame, est un garçon sympathique avec lequel on a de bonnes relations, et on a même confié à une de ses ministres la présidence de la francophonie. Alors que si vous allez au Rwanda, vous savez qu'aujourd'hui, le Rwanda a été une colonie belge. On y parlait beaucoup le français, mais c'est à peu près terminé. On y parle l'anglais comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Bon. Mais tout ça fait que monsieur Macron est allé, en fait, j'allais dire morigéner, je vais utiliser un terme qu'on n'utilise pas souvent, d'aller un peu gronder le président actuel de la République démocratique du Congo, qui s'appelle M. Tshisekedi, qui a été élu président il y a 4 ans maintenant, pour parler en disant « je ne viens pas en colonialiste, ce temps-là est passé, etc. » Bon, on connaît le discours, il l'a tenu déjà en d'autres endroits, hein. Mais il a dit quand même « vous devriez faire mettre un peu de l'ordre chez vous ». Et il a fait allusion à des événements qui étaient liés à la personne qu'il avait devant lui, M. Tshisekedi, c'est-à-dire à l'élection même de M. Tshisekedi. C'est-à-dire, imaginez, donc il arrive dans un pays, il est donc, vous savez, les fameuses conférences de presse de fin de réunion où chacun est à son pupitre et tout, et il dit au monsieur qui est à côté de lui, qui est président d'un pays de 100 millions d'habitants, « vous avez été élu dans des conditions douteuses ». L'autre est à la limite très gentil, il pouvait dire « et vous ?» Il ne le dit pas. Bon. Et M. Macron l'attaque en disant « vous avez dit du mal d'un de mes ministres ». Alors je situe l'entretien. Monsieur Tshisekedi a fait état d'un propos, non pas d'un journaliste, mais d'un ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Monsieur Jean-Yves Le Drian, qui, au moment où M. Tshisekedi a été élu, alors vous savez qu'il y a eu des contestations électorales, on sait aussi, parce qu'on avait regardé les journaux avant, que la France aurait aimé que ce soit un autre candidat que lui qui soit élu, on a dit qu'il y avait des irrégularités, ça peut arriver à peu près n'importe où, bon. Mais ce qui est important, c'est que M. Jean-Yves Le Drian s'est permis de faire, en tant que ministre, devant toutes les caméras du monde, de dire que l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir était liée à un arrangement à l'africaine. Donc vous voyez le contenu racial, raciste de ce type de propos. C'est-à-dire qu'en Afrique, je traduis, en Afrique, ils font des élections, enfin bon, le résultat, il est ce qu'il est, ça bricole dans les urnes, etc. Enfin, on fait des sous-entendus à l'africaine. Bon, ça, c'est insupportable, on ne le dit pas pour d'autres cas. Mais imaginez, alors je me rappelle un cas, je vous le rappelle, parce qu'au moment de l'élection de M. George Bush, reportez-vous à votre mémoire de l'année 2000, il a en face de lui un candidat démocrate qui s'appelle M. Al Gore, qui a été le vice-président de M. Bill Clinton au mandat précédent. Bon. À un moment donné, il y a une contestation sur les voix de la Floride. Et vous savez qu'avec le système des grands électeurs dans l'élection présidentielle des États-Unis, le basculement de la Floride, d'un côté ou de l'autre, du côté démocrate ou du côté républicain, était décisif, puisque la Floride est un État très peuplé, donc il y avait beaucoup de grands électeurs. Et donc, si la Floride votait républicain, c'était Bush qui devenait président. Si la Floride était comptée comme votant démocrate, c'était Al Gore. Il se trouve, et alors là, personne n'a dit que c'était à l'américaine, mais il se trouve que le gouverneur de la Floride était le frère de Bush. Et que quand les gens ont demandé dans le camp démocrate à recompter les voix, parce qu'il y avait quand même un doute sur les voix de la Floride, le monsieur Bush, il a refusé. Bon, alors on dit, bon, il a refusé, on n'en parle plus. Si, ce qui se passe, c'est que monsieur Al Gore, qui en fait avait gagné les élections présidentielles, n'a rien dit. Il a laissé faire. Il a dit, bon, ça a Bush à gagner, n'en parlons plus. Ça, c'est un arrangement à l'américaine, hein. Bon, il faut le dire, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est comme ça que ça pourra fonctionner dans d'autres cas. Vous savez qu'il y a des élections très, très serrées aux États-Unis et que ça se joue peut-être quelquefois sur un État qui bascule d'un côté ou de l'autre. Et ça se joue à coups de milliards, à coups d'argent, à coups de campagne dans la presse. Alors, les élections à l'africaine, c'est bien gentil, ça fait joli, mais ça pue son colonialisme. Parce que les arrangements électoraux, il y en a d'autres à d'autres endroits, hein, et on pourrait en trouver. Alors, je ne m'étends pas plus là-dessus. Ça, c'était la visite au Congo. Et donc, M. Tshisekedi a répondu en disant « Non, non, quand M. Le Drian, qui est votre ministre, alors il n'y est plus maintenant, mais il était le ministre de M. Macron, se permet de dire ça, hein, moi, je dis que je n'aime pas ça. Hein, je n'aime pas ça. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de leçon à me donner. » Alors, donc, là, Macron, je pense, a fait une erreur de visite. C'est-à-dire, il n'aurait pas dû aller à la République démocratique du Congo. Parce que là, il a été remis à sa place par un monsieur qui, très poliment d'ailleurs, alors que le ton de Macron était plutôt acerbe, désagréable, donneur de leçons comme il est souvent, monsieur Tshisekedi a été très calme. Il a dit non, non, moi je n'accepte pas un propos d'un de vos ministres. Qu'il soit plus ministre aujourd'hui, c'est votre affaire, hein, mais il l'a été et il le faisait en tant que votre ministre des Affaires étrangères. Et ça veut dire qu'il exprimait ce qu'en pense en France des gouvernements africains. Bon, les gouvernements africains, comprenez ça, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, je le dis pour lui, les gouvernements africains, ils en ont marre d'être traités comme ça par vous. Alors vous avez beau arriver en disant que la France-Afrique, c'est fini, etc., c'est pas vrai. Dès l'instant où vous acceptez ce genre de propos dans la bouche d'un de vos plus importants ministres, vous êtes encore en pleine France-Afrique, vous êtes des colonisateurs dans l'âme. Voilà. Et il a fini par une visite en Angola. Là, il y a de gros intérêts. Alors, l'Angola est une ancienne colonie portugaise, le deuxième pays pétrolier d'Afrique, donc il y a des intérêts importants. Je signale que Total faisait partie, enfin, le PDG ou un membre de la direction de Total faisait partie de l'entourage d'Emmanuel Macron. Là, ça s'est passé plus gentiment, mais il n'a pas été porté en triomphe ni quoi que ce soit. Donc, M. Macron est allé encore faire son spectacle sur l'Afrique. Mais ce que je retiens, et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il s'est permis de critiquer une élection à l'africaine au Congo. Je ne sais pas s'il a dit quelque chose. Peut-être il a été averti par le propos de M. Tshisekedi. Je pense qu'il n'a rien dit à Luanda, je n'ai pas vérifié. Mais par contre, ne rien dire sur les deux régimes typiquement france-africains qui sont le régime de M. Bongo et le régime de M. Sassou Nzeko, et aller chez un autre faire des critiques sur la façon de mener la politique en Afrique, c'est absolument honteux. Et c'est typiquement france-africain. C'est-à-dire, mes dictateurs ont raison et je les couvre. Et si les autres sont un peu dictateurs, alors je dis beaucoup de mal d'eux, même si ce n'est pas vrai. Bah. Donc, mauvaise période pour M. Macron. Mais ce qui fait, il faut bien voir, pour à la fois donner beaucoup d'importance à ses manœuvres militaires, je lis ça, et puis ce voyage en Afrique qui était destiné à faire parler de lui autrement que sur la question des retraites, c'était un calcul de tactique politique pure. C'est-à-dire, je veux faire croire au monde entier que la question des retraites, elle est bouclée, pratiquement, c'est un détail, c'est un dossier technique dont Mme Borne a la gestion, et puis c'est tout. Moi, je rêve à autre chose, je rêve à l'avenir du monde. Bon. Alors, ce rêve-là, un jour ou l'autre, coûtera très cher à la République française. Je pense qu'il y a de plus en plus de citoyens de ce pays qui s'en rendent compte. Voilà. Ma philippique est terminée, comme on disait. Mais elle méritait d'être dite parce qu'il faut bien situer le personnage. Et j'en étais arrivé. Je vous livre ça parce que je ne sais pas comment caractériser le personnage. Et je me disais, quel est le rapport d'Emmanuel Macron à la vérité ? Parce qu'il y a sur les faits, sur des choses, il y a des vérités. Et en fait, le rapport est très, très particulier. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, la vérité, c'est ce qu'il dit lui. Et donc, il n'y a pas de vérité extérieure. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si demain matin, il dit le contraire, c'est la vérité de demain matin. Hein. Mais la vérité elle-même, la vérité objective, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y a que ce qu'il en dit. Hein. Et donc, il passe d'une vérité à l'autre, puisqu'il parle d'une chose, il dit le contraire, il dit des nuances, peu importe. La vérité, elle est dans sa tête. Bon, on a un cas extrêmement inquiétant. Inquiétant de façon de raisonner. C'est-à-dire, si vous trouvez en face de vous quelqu'un qui dit « la vérité, c'est ce que je dis, et ce que tu penses, ça vaut rien », vous allez dire « il n'est pas tranquille hein. ». Eh bien, voilà ce que c'est que le faux. Pour moi, j'en suis arrivé à cette conclusion parce que je n'arrive pas à trouver une autre conclusion. C'est-à-dire, la vérité, c'est ce qui sort de sa bouche. Et en fait, il est...
De toute façon, c'est un grand voyage en Afrique encore qui est raté.
Ah oui, qui est carrément raté, voilà, ouais, qui est raté, surtout avec les deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, mes dictateurs, j'en dis rien, c'est de braves garçons et tout. Hein. Et puis les autres, alors ceux qui sont peut-être... Alors moi, Tshisekedi, alors c'est en plus, je ne l'ai pas dit, mais la République démocratique du Congo, avec ses 100 millions d'habitants, sa taille immense, ses forêts, ses ressources, ses sous-équipements, parce que... Alors, malgré leurs immenses richesses, ils ne sont pas riches. Donc, effectivement, c'est sous-équipé. Ils manquent des routes, ils manquent un peu de tout. Bon, c'est facile de critiquer la République démocratique du Congo, mais c'est surtout facile quand on ne compare pas avec ce que font les autres juste à côté. Ben, il y a juste le Congo à traverser pour arriver à Brazzaville, je veux dire. Hein. Bon, et là, c'est une dictature corrompue jusqu'à la moelle, mais c'est une dictature bien chez nous, bien franco-française. Bon, c'est ça qu'il fallait retenir. Bien. Alors... ceci étant dit, ce qui méritait d'être dit quand même, parce que c'est un rapport de la France et surtout la façon dont nous sommes gouvernés. Ensuite, je vais vous parler de d'autres sujets un peu plus internationaux, mais où on va encore parler de la position de la France. Alors, vous savez qu'il existe des accords sur la limitation des armes nucléaires. Alors, des accords, il y en a toute une série. Du coup, en gros, à partir du moment où l'URSS s'est dotée de l'arme atomique, il y a eu toute une série d'accords dans le temps, passés entre l'URSS et les États-Unis, pour essayer de maintenir un niveau égal des deux puissances nucléaires des deux côtés, hein, et des accords qui ont eu lieu qu'entre eux, c'est-à-dire qui sont encore aujourd'hui très au-dessus de toutes les autres puissances ayant l'arme atomique en nombre de têtes, comment dire, en nombre de bombes, et surtout en capacité de les transporter. En gros, pour faire simple, il y a trois véhicules pour transporter une bombe atomique. Il y a les missiles balistiques, donc on envoie très haut dans l'atmosphère et qui redescendent. Le deuxième véhicule, c'est le sous-marin nucléaire, lui aussi, à propulsion nucléaire, qui porte des missiles de ce type-là et qui vient les tirer à proximité de vos côtes. Et puis le troisième porteur, c'est le bombardier classique qui vient et qui jette sa bombe, enfin qui la tire maintenant puisqu'on ne jette plus les bombes. On les envoie avec quand même un peu de poussée derrière. Bon. Et donc, tous les accords qui ont eu lieu, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces accords, entre l'URSS et les États-Unis, ont été des accords qui ont été destinés à établir une espèce d'équilibre des deux forces. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas rêver et bien voir quelle était la relation politique. C'est-à-dire que chaque fois que les États-Unis avançaient, ils avançaient sans demander d'explication aux autres. Et à un moment donné, l'URSS s'apercevait qu'ils avaient de l'avance sur telle ou telle chose. Bon, l'URSS faisait des efforts pour rattraper. Et à certains moments, les États-Unis se rendaient compte que l'URSS était en train de prendre de l'avance. Alors sur les sous-marins nucléaires, enfin, bon, peu importe, le principe était simple. Donc, à partir du moment où les Soviétiques se mettaient à avoir de l'avance, les États-Unis disaient « il faut qu'on négocie ». Il faut qu'on négocie des accords de limitation et de contrôle réciproque. Donc quand ils avaient peur de perdre le monopole et la force de la décision en première instance, ils venaient négocier. Et donc on a toute une série d'accords qui se sont faits dans ce sens-là. C'est-à-dire les États-Unis, au moment où ils voient qu'ils ne sont plus tout à fait les maîtres du jeu, disent à l'adversaire, puis c'est leur adversaire, on s'assoit autour d'une table et on négocie une espèce de mi-temps. Hein. Alors, on ne diminue pas, on met moins d'argent, on dit bon, pas plus de temps de bombes atomiques, pas plus de temps de sous-marins nucléaires, etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'était ça l'idée. On se met à table et on essaye de calmer le jeu. Alors, le premier accord qui a eu lieu, c'est à propos de l'histoire de Cuba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les États-Unis prennent peur parce que l'URSS va installer des fusées capables de lancer des bombes atomiques sur le territoire des États-Unis à 250 km. Et l'URSS répond « Oui, ok, je veux bien enlever les miens, mais vous avez des fusées, ça s'appelait les fusées Jupiter à l'époque, à la frontière de la Turquie et de l'URSS, donc moi je suis dans la même situation que vous, je devrais avoir peur. Donc j'enlève les miennes si vous enlevez les autres. » Bon, et ce type de, d'accord, ce type de négociation, il a eu lieu plusieurs fois. Et ça prenait la forme d'un accord écrit. On se réussissait autant de fois qu'il fallait. Et on disait, bon, on arrête un peu, on calme un peu le jeu, on arrête de mettre des dizaines de milliards de dollars ou de roubles sur la table pour avoir encore plus, et on se calme un peu. Une espèce d'ar- pas d'armistice, mais on réduit les frais, on sait qu'on est à peu près à un niveau égal, il n'y en a pas un qui peut écraser l'autre, donc on en reste là. Le dernier accord de ce type, et c'est là que je voulais en venir, s'appelle l'accord START, ou plutôt New START. Il a été signé en 1990 entre Obama et Dmitri Medvedev. Alors pourquoi Dmitri Medvedev ? Parce que souvenez-vous, donc dans la constitution russe telle qu'elle existait au moment où Poutine est arrivé à la présidence, il était dit que le président ne pouvait faire que deux mandats consécutifs. Et donc, il se trouve qu'arrivé en 2008, Vladimir Poutine dit « Ben voilà, j'ai fait mes deux mandats et donc je cède la place, enfin, mon parti présente quelqu'un d'autre. » Et donc, il est remplacé dans une élection régulière par Dmitri Medvedev qui devient le président. Et il y a une espèce de permutation puisqu'à ce moment-là, Vladimir Poutine devient Premier ministre. Mais en fait, ça veut dire que là, les grandes responsabilités politiques, en particulier de politique étrangère, sont prises par Medvedev et plus par Poutine, qui est Premier ministre, donc qui s'occupe plus des affaires à l'intérieur du pays. Et donc, Obama sollicite Medvedev pour négocier un accord en disant écoute, mais maintenant, c'est pas la peine qu'on augmente encore le nombre de bombes atomiques et tout. On va les limiter à une certaine quantité des deux côtés. Ça suffit bien. Et Medvedev accepte. C'est-à-dire Medvedev sent qu'il n'est pas en capacité d'exiger quoi que ce soit. On est quand même dans des années où la Fédération russe n'est pas en excellente santé. Et donc il accepte et il va signer ce traité New Start qui prévoit donc un équilibre des forces, du nombre de bombes pour faire simple, avec la partie qui peut être envoyée par des missiles balistiques, la partie qui peut être envoyée par des sous-marins, la partie qui peut être transportée par des bombardiers. On se met d'accord là-dessus et on dit en plus, pour bien être correct, puisqu'il s'agit d'accords corrects, c'est-à-dire il s'agit d'accords où chacun des deux signataires peut aller voir dans les bases militaires de l'autre s'il n'a pas triché sur les nombres.
C'est ça.
C'est-à-dire que vous avez des experts des États-Unis qui vont dans les stocks de bombes atomiques russes et qui comptent le nombre de bombes. Bon, et donc ça se fait dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a des experts russes qui vont sur le sol du territoire des États-Unis, qui vont dans les lieux où sont stockées les bombes opérationnelles. L'accord ne touche pas les stocks, les réserves, les affaires non opérationnelles. Et donc qui vont voir et qui disent effectivement, les États-Unis sont engagés à avoir, c'est de l'ordre de 800 bombes atomiques et tout, on les a comptées, ça, bon, elles y sont, on est clair, on est en règle. Ça n'empêche pas les États-Unis de mener une politique agressive partout ailleurs. Là, ça ne concerne que les rapports entre les deux principales puissances nucléaires, mais il n'y a aucun autre accord sur aucun autre sujet. C'est-à-dire que quand, par exemple, les États-Unis attaquent la Libye, la Russie ne dit rien. La Russie ne dit rien parce que ça ne fait pas partie des sujets. Il n'y a pas de bombe atomique à utiliser, il n'y a rien du tout. Et donc la Russie ne dit rien. À telle enseigne, et j'insiste là-dessus, qu'au moment où la question d'intervenir en Libye se pose, c'est au Conseil de sécurité que ça se pose, il y a une résolution qui est votée par le Conseil de sécurité, qui est proposée par les États-Unis, qui dit que l'OTAN peut intervenir si pour empêcher le président Kadhafi de bombarder sa population. Et Medvedev, qui est donc président de la Russie à l'époque, s'abstient. Il n'a pas voté contre, c'est abstenu. Bon, on va laisser faire. Bon, le résultat de cette abstention a été catastrophique, puisqu'effectivement, les États-Unis et l'OTAN en tête ont bombardé massivement, donc ont pratiquement cloué au sol l'aviation libyenne, ont détruit l'armée libyenne avant de détruire l'État libyen et avant d'assassiner le chef de l'État libyen. Tout ça fait partie de l'espèce c'est l'abstention de Medvedev, c'est-à-dire qui était un peu en position faible, qui a laissé Obama faire ses affaires. Alors Obama a fait les printemps arabes, il n'a pas arrêté Obama. Et Medvedev, il était au moins content d'avoir dit, bon, au point de vue nucléaire, nous, en tant que Russie, on n'est pas menacés puisqu'on on a signé l'accord START, mais ça n'allait pas plus loin, ça n'avait pas d'incidence sur la politique agressive des États-Unis partout ailleurs.
C'était un état de faiblesse.
C'était un état de faiblesse. C'est-à-dire, il ne se protégeait que lui. Alors, bon, c'est à la limite, c'est logique. Un État se protège d'abord lui. Mais son poids sur la scène internationale était très, très faible. Puisque sur la Libye, il ne pouvait rien dire. Sur la Syrie, il ne pouvait rien dire. Sur l'Égypte, il ne pouvait rien dire. Sur la Tunisie, il ne pouvait rien dire. Donc, on a eu Ben Ali qui tombe, Moubarak qui tombe, tout ça. Et puis, la guerre de Syrie, bon, heureusement, Bachar al-Assad n'est pas tombé. Mais tout ça s'est fait alors que la Russie ne pouvait rien faire.
L'État d'Israël qui bombarde la Syrie.
Rien dire. Hein. Donc il faut bien voir cet accord START comme étant une espèce d'accord de protection qui est logique, parce que je dis, le président de la Russie, il protège d'abord la Russie. Hein. Il fait pas, c'était tout ce qu'il pouvait faire à l'époque. Bon. Donc ils étaient contents de ça. Cet accord était, je continue mon histoire, cet accord continuait jusqu'en 2021. C'était la première signature, 90-21. Bon. Et puis, dès que Biden... Alors, on a eu des craintes en disant, Trump, il est pas clair là-dessus, aussi bien il va le dénoncer du côté de la Russie. Donc, maintenant, Poutine étant redevenu président, on a eu des inquiétudes. Et puis, finalement, sous pression de la Russie, dès que Biden est arrivé à la Maison-Blanche, il a dit, allez, on prolonge. On prolonge, et donc l'accord START, New START, est prolongé de 2021 jusqu'à 2026. Donc après la fin d'ailleurs du premier mandat, si jamais deuxième mandat il y avait, de Biden lui-même. On en était là. Donc ça reste. Et puis donc le principe des inspections, pas seulement le principe, il était en vigueur, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des inspections qui continuaient. Voilà-t-il pas que tout d'un coup, à la suite donc de l'affaire ukrainienne, les États-Unis disent « Ah ben il n'est pas question qu'on accepte des inspecteurs russes dans nos bases militaires ». À quoi la Russie a fini par répondre, c'est la conférence de presse de Poutine du 22, je crois, du début du mois de février, de la fin du mois de février, où il dit, ben, puisque nos inspecteurs ne peuvent pas aller aux États-Unis, eh ben, les inspecteurs états-uniens ne viendront pas chez nous non plus. Hein. Et puis il ajoute, en même temps, vu la façon dont l'OTAN soutient le régime de Kiev, on ne va pas laisser les experts militaires américains venir voir ce qui se passe dans nos bases à nous. Hein. Donc il dit, ben, puisqu'on ne va pas chez vous, vous ne venez pas chez nous non plus, point. Et donc, il traduit ça en termes juridiques en disant, nous suspendons l'accord Stark. Ouais. Bon, c'est tout. Puisque tant qu'on en est là, effectivement, l'accord sur le nombre des bombes atomiques, il ne vaut rien s'il n'y a pas d'inspection possible. Parce que vous pouvez dire, j'ai signé un accord, et puis comme vous ne venez pas, j'en ai 200 de plus que j'ai sorti de derrière les fagots. Il y a des réserves en plus. Bon, c'est possible. Donc, l'accord perd toute fiabilité. On en est là, mais on en est là et ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que ce que dit la Russie à travers ce que dit son président, c'est de dire bon, alors nous, on peut plus savoir maintenant combien de bombes atomiques, en réalité, les États-Unis ont bombes atomiques opérationnelles. Ils ont toujours cette idée de bombes qu'on peut, dans le quart d'heure ou dans la demi-heure, lancer. Après, il y a des réserves, mais il faut les réadapter, les repréparer. Et donc, dans la mesure où on ne sait pas, on est dans une espèce de vide. Mais dans cette espèce de vide, ce qu'on constate, c'est que l'OTAN est très, très impliquée dans la guerre d'Ukraine, qu'elle envoie des armes partout, et qu'en particulier, dans l'OTAN, il n'y a pas que les États-Unis comme puissance atomique. Il y en a deux autres, qui sont le Royaume-Uni et la France. Et au point que la Russie, la diplomatie russe, commence à dire « Mais donc, il faudrait bien voir, puisque maintenant, c'est l'OTAN qui s'affronte à notre armée, hein, on est sur le sol ukrainien, il faudrait bien voir, faire le compte de la totalité des armes nucléaires de l'OTAN, y compris donc y intégrer les armes françaises et les armes britanniques. Et c'est là que ça commence à être un peu gênant pour Macron, parce que ça pose la question... Alors, la question se pose à peine, j'allais dire, pour le Royaume-Uni, parce qu'on pense que le Royaume-Uni, ce qui est assez proche de la vérité, est une espèce de filiale des États-Unis, et que donc les États-Unis décident et les Anglais suivent. Bon. Mais par contre, si effectivement, à travers cette affaire, on s'aperçoit que, en fait, la France n'a plus la maîtrise de son armement nucléaire, toute la politique de Gaulle s'écroule. C'est-à-dire qu'en fait, si les armes atomiques françaises si leur usage est décidé non pas à Paris mais à Washington, on est dans une autre situation. Ce n'est plus tout à fait la même France et ce n'est plus tout à fait la même bombe atomique et la même force de dissuasion. Donc c'est cette question-là qui devient une question importante et à laquelle, évidemment, je ne sais pas si Macron est en capacité de répondre, mais il est un peu coincé. C'est-à-dire, à force d'affirmer que c'est une défense indépendante, la dissuasion, la France est maître chez elle, à part de tenir ce discours gaullien et gaulliste tel qu'il était à l'origine, on en est à se poser des questions, et je les pose devant vous parce qu'elles méritent de l'être, en disant, au fond, le fait que la France soit rentrée dans toutes les instances de dirigeante de l'OTAN, ça remonte à Sarkozy 2008. Plus personne aujourd'hui, alors on fera faire des grands discours à certains généraux, etc., français, plus personne aujourd'hui n'est en capacité de dire si la décision d'utiliser une bombe atomique française serait prise à Paris ou à Washington. C'est cette question-là que la Russie est en train de mettre sur le tapis. Et c'est une question dérangeante, parce qu'effectivement, si la Russie arrive à faire démontrer qu'effectivement l'utilisation de la bombe atomique française se décide à Washington, ça veut dire que la France est définitivement une colonie des États-Unis. À tout point de vue, parce que la seule indépendance qui restait, c'est les généraux et l'état-major passaient leur temps à le dire, la seule indépendance était de dire « nous sommes les seuls maîtres de notre arme nucléaire ». Dès l'instant où la question se pose de savoir où est le vrai maître, effectivement, l'indépendance a disparu. Grave question pour le deuxième mandat de M. Macron, mais qui concerne tous les Français. Alors, c'est un débat qui n'est pas porté par la classe politique française, qui en a peur. Parce que ça veut dire que ces espèces de certitudes sur la dissuasion française, on est maître de notre destin, on fait ce qu'on veut, etc., elles trouvent très très vite ses limites. J'en dis pas plus, mais c'est déjà beaucoup sur ce sujet-là qu'il méritait d'être abordé, qu'il le sera peu, parce qu'on ne voit pas trop dans les parlementaires actuels français des gens qui ont le courage de porter ce type de débat. Or, il est central parce que ce type de débat, c'est est-ce que notre pays a un gouvernement qui est libre de ses mouvements ou pas, vraie question. Ouais. Mais je vais passer de la liberté à d'autres pays. Alors, liberté d'autres pays. Alors, une espèce de chronique funèbre, c'est triste à dire, mais sur la Grèce. La Grèce, il s'est passé donc la semaine dernière un accident de chemin de fer dramatique, puisque vous avez simplement deux trains qui se sont rentrés l'un dans l'autre à pleine vitesse sur une voie. Ils étaient tous les deux sur la même voie, un dans un sens, l'autre dans l'autre. Il y a eu une centaine de morts, beaucoup de jeunes en particulier, beaucoup d'étudiants et tout. Et ça a mis le doigt sur une réalité extrêmement cruelle, c'est-à-dire que les chemins de fer grecs, comme tout le reste du secteur public grec, ont été vendus à l'étranger. Alors on le sait, les aéroports ont été vendus à des entreprises allemandes, les chemins de fer ont été vendus à une entreprise italienne. Donc théoriquement, il y a quelqu'un qui gère, et en Italie, on sait quand même gérer un réseau ferroviaire, il y en a un, on sait faire. Bon. Mais en fait, dès l'instant où la privatisation consiste à augmenter au maximum des bénéfices et à ne pas investir, alors je reviens là-dessus sur ce que je disais la semaine dernière sur les accidents de chemin de fer aux États-Unis. C'est-à-dire, vous pouvez gagner énormément d'argent un certain temps, mais si vous n'entretenez pas du tout, il y a un moment où ça se termine très très mal. Et là, ça s'est terminé très très mal puisqu'il n'y a pas eu de personne en capacité de dire « Ah, mais il y a deux trains à pleine vitesse qui sont sur la même voie, ils vont se tamponner ». Bon, il y avait apparemment un seul fonctionnaire un peu âgé, qui a été dépassé par les événements ou qui dormait, enfin on ne sait pas. Il y aura une enquête là-dessus, mais je ne vais pas plus loin. Mais on a un état de délabrement de tout le secteur public grec qui est la conséquence de la capitulation du gouvernement grec par rapport aux conditions brutales qui ont été posées par ce qu'on a appelé la Troïka, en gros l'Union européenne, le FMI et Washington. Alors, c'est dramatique en ce sens que dans ce pays n'est plus capable de se gouverner lui-même, puisque la plupart des grands secteurs sont entre les mains d'investisseurs étrangers.
Des étrangers.
Alors, ça s'accompagne évidemment d'une grande misère dans la population. Et c'était important de le rappeler en disant on a la situation catastrophique que je rappelais récemment. C'est-à-dire que, souvenez-vous que le gouvernement dit de gauche, de Syriza, et donc de M. Tsipras, son premier ministre, c'est, à mon avis, condamné définitivement à la honte politique le jour où il a fait... Alors, souvenez-vous, à un moment donné, M. Tsipras et son gouvernement sont confrontés aux exigences de la Troïka, donc des banquiers internationaux, qui disent « on veut ci, on veut ça, c'est-à-dire on veut ce qui s'est passé, la privatisation de tout, on achète tout, etc. Vous n'avez plus rien, vous êtes juste là pour le spectacle. » Et donc, M. Tsipras organise un référendum dans la population pour savoir si les conditions épouvantables, très dures, fixées par la Troïka sont acceptables par le peuple grec, et le peuple grec répond comme ça, non, elles ne sont pas acceptables. Et le lendemain même où le peuple a dit non à ces conditions et à cet accord, M. Tsipras va le signer. C'est-à-dire que M. Tsipras dit à son peuple grec, je me moque de ce que vous pensez, vous, je gouverne tout seul, allez vous rhabiller, restez chez vous. C'est monstrueux d'être à ce point de mépris pour sa population alors qu'on est le chef du gouvernement. Mais, et apparemment, alors ce qui me subjugue, c'est que Syriza s'est à nouveau présenté à des élections au Parlement et qu'ils ont encore eu des élus. Il y a encore des gens qui ont dit oh, c'est des braves gens. Mais c'est pas possible. C'est des gens qui vous demandent votre avis et qui, une fois que vous avez donné votre avis et qui n'est pas celui que vous voudriez, vous faites exactement le contraire de ce que le peuple veut. Mais vous êtes complètement illégitime. Partez, faites un autre métier. Hein, partez en vacances. Mais c'est pas possible. Eh bien non, il y a encore un groupe Syriza. Alors ils ne sont pas majoritaires maintenant au Parlement grec, mais ils sont encore là comme étant une expression de gauche. Mais c'est pas raisonnable. Vous salissez même le mot de gauche. Une gauche qui dit je fais voter le peuple et je fais le contraire de ce que le peuple veut, c'est une gauche qui est honteuse, qui devrait s'en aller. Hein. Mais non, ça continue comme ça. Bon, et la Grèce souffre. C'est ça qui est important, la Grèce souffre. Et la Grèce, il y a des morts chez les étudiants, il y a des morts ici et là, le niveau de vie est très bas, etc. Bon, tout ça, vous savez. Mais je voulais le dire parce que c'est trop facile de dire il y a une opposition de gauche. Mais qu'est-ce que c'est, cette opposition de gauche? Elle ne vaut pas grand-chose. Bien. Ensuite, je voulais vous dire quelques mots de ce qui s'est passé du côté de New Delhi. À New Delhi, il y avait une réunion du G20. Alors le G20, vous savez qu'il y a plusieurs réunions annuelles. Il y a des réunions au niveau des chefs d'État, et puis il y a des réunions au niveau des chefs des affaires étrangères, des ministres des affaires étrangères, et il y a des réunions des ministres de la Défense. Bon, il y avait donc une réunion qui avait été invitée donc par le gouvernement indien, par M. Modi, des ministres de la Défense des membres du G20. Le G20, je rappelle, c'est les 20 principales puissances économiques du monde qui se rencontrent à intervalles réguliers pour parler de l'avenir du monde, puisque les positions qu'ils prennent ont une influence très importante, puisque c'est 80% de l'économie mondiale qui est entre leurs mains. Bien. Alors là, au cours de cette réunion-là, comme il l'avait fait d'ailleurs au cours de la réunion des ministres des Affaires étrangères, il y a de bons esprits, entre guillemets, comme le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui demande à ce que le G20 prenne position sur la guerre d'Ukraine. Ouais. Ben pour, évidemment, montrer du doigt la Russie qui a fait tout le mal. Bon. Alors, l'Inde qui présidait la réunion essaie de dire non, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça, etc. Ouais. Bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais le fait que l'Inde est un peu regimbée, dit non, vous êtes, écoutez, non, on n'est pas là pour ça, ça se passe chez moi, j'accepte pas, etc. Les États-Unis arrivent à arracher à M. Modi, Premier ministre indien, une réunion simultanée ou quasi simultanée, ou le lendemain plutôt, je crois que c'est le lendemain, du Quad. Alors qu'est-ce que c'est le Quad? Ben, le Quad, c'est un outil de la politique étrangère des États-Unis, c'est-à-dire c'est les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui se sont mis d'accord contre la Chine. Je vais faire simple, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Je vous rappelle que le Quad, alors je le rappelle surtout pour les auditeurs français, le Quad s'est manifesté par rapport à la France, puisque c'est le Quad qui a décidé que l'Australie n'achèterait pas de sous-marins la commande qui avait été passée par l'Australie à la France, enfin au constructeur naval français, n'a pas été respectée, elle a été annulée. Sur décision du Quad. Bon, le Quad, donc, on voit que c'est un organe à la solde des États-Unis. Bon, alors, M. Modi temporise et il accepte que, donc, M. Blinken, le secrétaire d'État qui était là pour la réunion des ministres de la Défense et M. Sullivan, organise le lendemain matin une réunion du Quad à Delhi, sur place, puisqu'ils étaient là, tu vois. Et là, on voit très bien que M. Modi, c'est plus trop... Alors, c'est intéressant... parce que la position de monsieur, le gouvernement indien, d'ailleurs, ce n'est pas lui tout seul, bien évidemment, est difficile. C'est-à-dire, il essaye en même temps, comme il avait fait au cours de la réunion du G20, de dire, attendez, on ne parle pas de l'Ukraine, c'est un autre problème, etc. On n'est pas là pour ça, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Et en même temps, accepter que, d'une façon complètement improvisé. Il y a une réunion du Quad qui se tienne comme ça d'un seul coup à New Delhi, donc on a dû convoquer le ministre japonais, toutes affaires cessantes, le ministre, le japonais, il devait être là puisqu'il était dans le G20, le ministre néo-zélandais, etc., pour dire, bon, on fait une réunion du Quad pour montrer que l'Inde, elle n'est pas... Enfin, l'Inde n'est pas clairement dans le camp russe. Je vais simplifier, mais c'est ça. Et donc, M. Modi s'est plié à ce genre de dire « Non, on est un peu... On achète beaucoup à la Russie, on lui achète beaucoup de pétrole, on lui achète beaucoup de gaz, etc. Mais en fait, quand même, on ne veut pas trop fâcher les États-Unis. » Bon, on en est, c'est très révélateur de la position entre deux chaises, j'allais dire, je ne dis pas le reste, entre deux chaises du gouvernement indien, qui à la fois fait des affaires très intéressantes en achetant du pétrole russe pas cher, quitte à en revendre d'ailleurs à ses voisins, est un peu en difficulté quand il faut dire non aux États-Unis. Donc là, il a cédé. Les États-Unis ont imposé une réunion du Quad qui n'était pas prévue au programme pour faire comprendre à M. Modi que quand les États-Unis tapent sur la table, le gouvernement indien doit se plier. Alors, il a accepté plus ou moins bien. Donc je pense que ça aura des suites parce que ce comportement, l'Inde en même temps a des capacités quand même de résistance économique. Elle est peuplée. Elle a des industries importantes maintenant, elle a des grosses capacités dans toute une série d'activités industrielles. Ça va être de plus en plus difficile de faire plier l'Inde. Et puis l'Inde a à la limite un mauvais exemple sous les yeux, c'est-à-dire que son voisin, la Chine, qui a dit « mais moi, je me décide tout seul pour ce que je fais et ce n'est pas les États-Unis qui m'imposent une politique », ça finit par poser des questions à la bourgeoisie indienne qui dit « mais après tout, si on est maître de chez nous, pourquoi il y a quelque part aux États-Unis, à Washington, deux, trois personnes qui disent ce qu'on doit faire ». Bon, donc ça va porter ses fruits progressivement. Et j'en arrive, ça allait de soi, à vous parler de la Chine. J'en arrive à vous parler de la Chine parce que ce qui s'est passé, donc il s'est tenu une assemblée, alors c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il existe dans la constitution chinoise une assemblée particulière. Alors il y a le bureau permanent, le comité central du Parti communiste, c'est le vrai organe dirigeant, mais il y a en même temps une assemblée qui se réunit, donc là ça s'appelle l'Assemblée du peuple, donc qui regroupe à la fois des représentants du Parti communiste, mais les représentants de toute une série de structures qui représentent des minorités ethniques, d'autres partis politiques, des classes sociales, des groupes sociaux, etc. C'est-à-dire que on met autour de la table, et ça c'est le Parti communiste chinois qui le veut, toute une série d'intérêts minoritaires dans le pays, mais qui existent dans le pays, qui il ne faut pas nier, il y a des minorités ethniques importantes, il faut qu'elles s'expriment. Et donc, dans ces assemblées, des assemblées populaires qui se tiennent une fois l'an, en plénière, le gouvernement chinois, donc le gouvernement du Parti communiste, c'est tout à fait clair, vient expliquer sa politique, il veut la faire partager, et il s'attend à ce qu'elle soit, y compris, discutée, qu'il puisse y avoir des critiques. En disant, là, toutes les forces sociales existantes sur le territoire de la République populaire sont là pour s'exprimer. C'est le Parti communiste qui gouverne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il est majoritaire, il tient les rênes du pouvoir, mais il n'écrase pas les minoritaires, quels qu'ils soient des minorités ethniques, des minorités sociales, des minorités de classe, etc. Il y a des groupes qui représentent les artisans et les commerçants, donc on appellera ça, nous, les PME. Les PME, elles existent, il y en a beaucoup dans le petit commerce chinois, qui est toujours très très actif, vous le savez. Mais il faut que ces gens-là discutent, soient informés de la politique de l'État, qu'ils puissent s'exprimer dessus et qu'ils ne soient pas interdits de parole. C'est ça qui est très très important. Bon, alors cette assemblée du peuple donc, s'est tenue, et à cette occasion, donc, le gouvernement chinois, le pouvoir chinois, qui est entre les mains du Parti communiste, il n'y a pas longtemps, a expliqué quelle était sa politique pour l'année à venir, et dans l'application donc des positions qui ont été prises par le comité central du parti et par le bureau politique. Il explique sa politique, il n'explique pas une autre, il vient pas pour discuter, pour mettre en cause sa politique, il vient la présenter, la défendre. Bon. Qu'est-ce qu'il a expliqué ? Tout simplement que, d'une part, la reprise économique, enfin, l'activité économique chinoise était sur la bonne pente, c'est-à-dire qu'il a annoncé un taux de croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 5,5% pour l'année 2023, et probablement des possibilités de maintenir ce taux de croissance au même niveau pour 2024. Alors, ça a l'air peu, 5,5% de taux de croissance sur deux années de suite, mais si vous rapportez ça, si vous comparez ça à des taux de croissance dans les pays de l'Union européenne, même de celui des États-Unis, vous apercevez que l'économie chinoise va beaucoup plus vite que toutes les autres. Et ça se voit tellement que le commerce extérieur des États de la Chine devient de plus en plus important. La Chine aujourd'hui produit à peu près de tout dans tous les secteurs et pas simplement des produits de basse qualité et de basse technologie. Elle est capable de faire tout. Elle est devenue le premier constructeur de navires du monde. Elle a aujourd'hui la capacité, il vient d'être lancé, de fabriquer des avions civils de moyenne catégorie. Donc, tout ça, elle sait faire de tout. Et donc, l'activité, alors la position des Chinoises, elle est très simple. Elle dit, en fait, le fait que nous soyons, nous, à des taux de croissance élevés, on permet à l'économie mondiale de progresser encore. S'il n'y avait que les autres qui sont en crise, crise comme l'Union européenne, crise comme la France, crise comme l'Allemagne, etc., ça ne bougerait plus. Hein. Nous sommes là pour faire un peu bouger la machine et pour que des tas de pays puissent participer au commerce international. On continue sur ces bases et on continue en essayant en plus d'améliorer. Alors, deux points très importants, d'améliorer la qualité et le niveau technologique de nos productions. Deuxième point, en essayant de plus en plus d'utiliser des techniques neutre, enfin le moins agressif possible par rapport à l'environnement. Ce qui est vrai aussi, j'ai eu l'occasion de voir personnellement ce que c'était que la pollution urbaine à Pékin il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire on en était au point où on ne voyait pas les bâtiments de l'autre côté de la rue, tellement le brouillard plein de suie, plein de polluants, était épais. Bon, c'est terminé, c'est-à-dire qu'il y a des ciels purs dans Pékin aujourd'hui, c'est possible parce qu'il y a une décision autoritaire du gouvernement disant on va arrêter de chauffer Pékin avec du charbon. On chauffe Pékin avec des centrales à gaz, maintenant ça fait tout autre chose. Bon. Et donc tout ça fait partie des préoccupations chinoises. Et ce que je voulais souligner, c'est que j'ai regardé dans la presse occidentale ce qui se disait là-dessus, donc pas grand-chose, ça les dérange, parce que afficher, quand la France va se promener à un taux de croissance du PIB de 1,5% dans le meilleur des cas sur 2023, et on ne voit pas arriver beaucoup d'embellis, on voit plutôt arriver, je le disais la semaine dernière, des faillites en nombre croissant. Et donc, quand vous affichez un taux de croissance de 5,5%, vous êtes bien au-dessus de tout ce que font les autres. Tous les autres capitalistes en partie, parce que c'est vrai aussi ce que je dis pour l'Europe, France, Allemagne, c'est vrai aussi pour le Japon. Le Japon a une économie quasiment stagnante. Alors, ils sont à un niveau de développement élevé, c'est vrai, mais ils sont quasiment en stagnation. Bon, donc la Chine est une espèce de moteur qui fait marcher tout. Alors, elle fait marcher tout, en particulier ses voisins. C'est-à-dire que la croissance chinoise, elle est articulée sur la croissance des pays de l'Asie du Sud-Est, sur celle du Vietnam, sur celle de l'Indonésie, sur celle de l'Inde aussi. C'est là, le cœur de l'économie mondiale, il est là, hein, parce qu'au milieu, il y a le moteur chinois. Ça, la Chine le sait. Et nous, on fait comme si la Chine, c'était un empêcheur de tourner en rond. C'est pas tout à fait exact. Et ce qui est amusant dans les comptes rendus de la presse occidentale sur la réunion de l'Assemblée populaire, c'est que la Chine a décidé d'augmenter son budget militaire, non pas de 5,5%, comme elle pense le faire pour son PIB, mais de 7%. Alors là, les commentateurs occidentaux, ils vont, là, la plume se déchaîne. Regardez, ça y est, ils marchent vers la guerre. J'allais dire, il ne marche pas tout seul, parce que je rappelle que quand même, nous, on a les 400 milliards de Macron. L'Allemagne a un crédit spécial de 100 milliards supplémentaires pour augmenter son armée. Le budget des États-Unis est de 800 milliards de dollars pour l'équipement pour l'armée sur l'année. Et donc, quand on compare le chiffre, alors on met le 7%. Non, regardez, c'est énorme, 7% de croissance. Et ils disent, effectivement, on l'avait observé au cours d'une autre émission, jusqu'à présent, les dépenses militaires de la Chine croissaient au même rythme que le produit intérieur brut. C'est-à-dire, quand il y avait 5% de croissance du PIB, il y avait 5% des dépenses militaires. Bon. Là, on passe un petit peu au-dessus, mais pas un doublement. Hein. Et dans le discours qui a été fait à l'Assemblée du Peuple, il a bien été dit, et ça a été redit d'ailleurs d'une autre façon par Poutine dans son discours du 22 février, disant « On ne choisit pas entre le beurre et les canons ». Vous savez, la fameuse phrase de Mussolini, « Choisir entre le beurre et les canons », où là, Mussolini, en tant que dirigeant fasciste, disait « Non, non, vous n'aurez pas de beurre, parce que de toute façon, maintenant, c'est les canons. »
Voilà.
Bon. Et bien maintenant, alors les Chinois disent « Non, c'est pas ça, on est en train de faire plus, parce qu'il y a quelqu'un en face de nous qui est en train d'augmenter beaucoup plus que nous son budget militaire et qui nous menace. » C'est ça la réalité, c'est ça dont je voulais vous parler, parce que ce quelqu'un qui nous menace, alors en fait, si on rapporte le budget militaire des États-Unis avec le plus 7% de la Chine, il est à un quart du budget militaire des États-Unis. Voilà, mettons-nous ça dans la tête, c'est suffisant pour bien comprendre la réalité. Le mouvement est lancé, et maintenant, c'est le mouvement vers l'émission qui suit. Merci beaucoup, Yamine. À la semaine prochaine et à demain soir pour notre émission spéciale avec Daniel Bétraque.